Cours de philosophie politique par le père Philippe à Saint-Joseph le 20 mai 1986.
c'est la Bécone. Il n'y a donc pas d'autre principe que l'âme pour saisir ce que c'est que la personne. Et par le corps, je comprends que cette nature a un devenir. Il faut donc comprendre le devenir de ce petit être qui est l'enfant, qui au point de départ est dans un état de dépendance. Nous l'avons déjà dit, plus grand que n'importe quel autre animal. Et cet état de dépendance implique une éducation maternelle et progressivement une instruction. Alors c'est toujours les liens entre l'éducation et l'instruction qui sont particulièrement importants à voir. L'éducation est faite pour former le cœur et l'instruction est faite pour développer l'intelligence. C'est les rapports entre intelligence et volonté qui commandent ces relations entre éducation et instruction. Il est évident que l'école maternelle est plus une éducation qu'une instruction. C'est sûr. Ce qu'on demande à l'école maternelle, c'est des personnes qui ont beaucoup de cœur. On ne leur demande pas d'être agrégés. Normalement, l'agrégation ne conduit pas à l'école maternelle. Mais ce sont des personnes qui ont beaucoup de cœur et qui ont cette espèce d'intelligence du cœur, cet éveil du cœur. Mais il faut progressivement éduquer l'intelligence. Et l'éducation, au sens fort, c'est l'harmonie entre le point de vue affectif et le point de vue intellectuel. Former des gens très intelligents, mais qui n'ont plus du tout d'affectivité, ou qui n'ont qu'une affectivité sensible, sans avoir cette affectivité volontaire. C'est très dangereux. Et au fond, c'est le déséquilibre qu'on voit aujourd'hui. Il faut bien reconnaître ça. On le voit dans tous les domaines. J'ai ce dialogue avec les industriels d'aujourd'hui. Qu'il s'agisse de cadres, qu'il s'agisse vraiment de ceux qui sont secrétaires des syndicats, le problème est toujours celui-là. Il y a beaucoup de personnes très compétentes au point de vue connaissance, mais qui manquent, comme ils disent, de personnalité ou de tempérament. C'est-à-dire que le côté affectif n'est plus développé et éduqué. Parce que quand vous ne sentez pas... au développement d'intelligence. Alors que l'éducation a une finalité propre, qui est d'arriver à permettre à quelqu'un de poser des actes volontaires d'amour. Donc d'aimer vraiment. Et à partir de là, une volonté d'efficacité. Parce qu'on aime, on veut réaliser quelque chose. Et parce qu'on aime, on veut la connaissance de la vérité. Donc l'instruction. Mais c'est très important de comprendre que le point de vue éducatif est fondamental et premier. Et quand je dis premier, au sens génétique et au sens premier dans l'ordre de valeur, c'est le premier génétique et c'est le premier dans l'ordre de nature. Parce que la personne humaine est en premier lieu quelqu'un capable d'aimer volontairement. C'est-à-dire d'opter une finalité, de choisir une finalité, de s'orienter vers une finalité. Vous ne choisissez pas de finalité au niveau sentiment. Il n'y a pas de finalité au niveau des passions. La finalité apparaît seulement au niveau volontaire. M'oriente vers un bien, je me laisse prendre par un bien personnel. Alors, ça c'est capital pour nous, parce que aujourd'hui on repose énormément le problème de la famille à ce point de vue, c'est merveilleux. Il y a tout un secteur qui s'ouvre de nouveau, dont on ne parlait pas du tout il y a 50 ans. Et au point de vue apostolique, alors toutes les conséquences que ça peut représenter. Avec la famille, il y a le problème de l'éducation. Vous voyez, les conflits entre l'État et la famille, auxquels on assiste, auxquels, je crois, on doit s'engager. Parce que l'Église s'engage là-dessus. L'Église ne s'engage pas à savoir si c'est un gouvernement socialiste ou un gouvernement mitigé de droite. L'Église ne s'engage pas là-dessus. Ou un engagement fanatiquement de droite. L'Église seulement rappelle qu'un gouvernement ne peut pas aller contre les lois chrétiennes. Donc on n'a jamais le droit de voter pour quelqu'un qui a une politique explicitement anti-chrétienne. Sauf quand il n'y a pas d'autre candidat, on choisit le moindre mal. En politique, c'est possible. Parce que vous ne pouvez pas voter pour vous-même comme le seul candidat réussi ou acceptable. Vous pouvez pas. En morale, vous pouvez toujours vous réfugier dans ce qui est votre finalité propre. En politique, vous n'avez pas de finalité propre. La finalité, c'est le bien commun. Il n'y a pas de finalité propre. Le bien commun, il est donné. Votez pour des personnes qui vous sont imposées. C'est pas vous qui avez fait les listes électorales. Et donc, il y a un moindre mal. Ça, c'est autre chose. Mais ce qui est très important aujourd'hui, c'est de comprendre justement ces relations entre la famille et l'État. Or, je crois que le fondement profond des relations entre la famille et l'État proviennent de la distinction entre éducation et instruction. Et dans la mesure même où on ne voit plus ces distinctions, l'État a la tendance et la tentation permanente de tout prendre. Parce que si il n'y avait pas de distinction entre éducation et instruction, voyez bien, l'éducation est finalisée par la personne et l'amour. L'instruction est finalisée par la communication de la vérité. Donc s'il n'y avait pas de distinction entre éducation et instruction, si l'éducation était ordonnée à l'instruction, je crois que l'État, alors, a à ce moment-là un droit à l'éducation, à l'instruction. l'éducation est distincte de l'instruction, que l'éducation regarde la personne et la finalité en premier lieu, que de fait, l'éducation revient à la famille, au-delà de l'État, parce que la finalité est liée à la personne et l'individu, alors que la recherche de la vérité fait partie d'un bien commun. Faire de la philosophie fait partie du bien commun de l'État, tandis que le noviciat ne fait pas partie du bien commun de l'État, pas directement. Vous ne pouvez pas demander des subsides à un État pour un noviciat, tandis que vous pouvez demander des subsides à un État pour l'école Saint-Jean. C'est la supériorité de l'école Saint-Jean par rapport au noviciat. C'est que autre chose est l'éducation, autre chose l'instruction, éduquer l'intelligence. C'est très important de saisir ça. Ça, je crois qu'on peut tous le saisir assez facilement. Alors, il faut y réfléchir et voir tous les moments brûlants et chauds où il y a des difficultés. Ce serait très intéressant, du reste, à l'occasion de ça, de soulever toutes les difficultés qu'il peut y avoir de rencontre entre l'aspect éducation et instruction et tous les conflits qui peuvent se mêler. Ben, on vient d'en voir un qui était terrible et qui était très 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 fort. Bon, certains prétendent que ça n'est pas du tout résolu et que ça va renaître nécessairement sous un autre aspect. Ça peut être autrement, étant donné la solution bâtarde qui a été donnée. Alors, c'est intéressant de voir ces choses-là. C'est très intéressant de voir les conflits possibles. Je me place d'un point de vue philosophique. Le point de vue philosophique doit éclairer ces conflits. Le point de vue philosophique ne doit les éclairer, doit montrer dans quel sens il faut aller. Et le point de vue philosophique est là pour rappeler des distinctions qu'on ne fait plus. Et ça, il faut le comprendre. On ne fait plus ces distinctions-là aujourd'hui. Et parce qu'on ne fait plus ces distinctions-là aujourd'hui, on est dans l'impossibilité de répondre à un gouvernement qui veut imposer une instruction d'État rejetant toute école libre de toute confession. Tout simplement, école libre, tout court. Vous voyez, le régime de l'Amérique est infiniment plus libéral. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, parce qu'elle a maintenu ça à travers tout. Et dans des moments comme les nôtres, c'est une très grande force. Alors que, en France, étant donné la formation chrétienne de la France, de la France, il y a cet esprit critique d'opposition tant vis-à-vis du Vatican que vis-à-vis de la doctrine de l'Église. Et alors, on tombe dans l'extrême opposé où pratiquement l'Église, on lui demande de rester à l'intérieur de l'Église. sachant la marge de possibilité. Avoir un idéal politique irréalisable, c'est un manque complet de réalisme. C'est peut-être très bien pour la pureté de la conscience, mais c'est un manque complet de réalisme. Quand on est dans un combat politique, il faut que ce réalisme aille jusqu'au bout, au point de vue de la prudence. Or, la prudence choisit des moyens réalisables. Choisir des moyens non réalisables, ce n'est pas prudent politiquement. C'est une imprudence. C'est une nostalgie. Vous avez la nostalgie du vieux régime. Nous avons tous la nostalgie du premier régime, qui est la justice originelle d'Adam et d'Ève. On a cette nostalgie-là fondamentale. Et cette nostalgie-là se traduit jusque chez ceux qui le nient, l'existence d'Adam. C'est parce qu'ils n'ont pas accepté de faire un discernement dans leur nostalgie. Mais c'est très facile de dire, tout ça c'est du mythe. Il n'y a pas très longtemps, c'était à Paris. Étant d'à côté d'un petit bonhomme, je ne sais pas quel âge il a, 10 ans, 12 ans, il m'a posé cette question. Est-ce que pour vous, ce qui est dans la Genèse, c'est un pur mythe? Très intéressant. En revenant ici, je reçois d'un prêtre que je connais, qui était habitué de venir régulièrement à Châteauneuf, qui est aumônier du Carmel de Saint-Flour, et donc ça nous touche, qui m'envoie un article dans Panorama. Adam a-t-il existé? Réponse du père Martelet. Et lui, bon prêtre de la base, aumônier du Carmel, qu'est-ce que je dois penser de tout cela? Ça ne me semble pas très selon l'enseignement de l'Église. Mais c'est très très net qu'on est en face de ces réalités constantes aujourd'hui, jusque dans les enfants de 10 ans et 12 ans. Vous poseront ces questions-là. Après, au bout de quelques réflexions, ce gosse, pour bien montrer que ce n'était pas une révision, il avait entendu ces questions-là dans un cours. Et ce gosse a dit, ah oui, je commence à comprendre. Oui, la signification est au-delà du mythe. Et le mythe, au niveau de l'expression, demeure. Pas bête. Vous voyez qu'en disant ça, c'est une distinction que la féminologie ne peut plus donner. Il y a un gosse de 10 ans l'a fait. Il dit, c'est quand même extraordinaire de voir ça. Si on est attentif, puisqu'il cherche la vérité, et cherche la vérité. Et la discussion était là-dessus. Et pendant qu'il parlait, il ne mangeait pas. Il n'avait pas envie du tout de manger. Il cherchait la vérité. Nous sommes des sacristains de la vérité. Alors on mange. Tandis que le gosse est pris par la vérité, alors lui, distinction entre intelligence et volonté. Nous y reviendrons, cette distinction, puisque nous la voyons en théologie naturelle, dans toute sa profondeur. Ici, nous la voyons dans l'exercice même de notre vie, et dans l'exercice même de la famille qui assume l'éducation. Alors, l'éducation relève de la famille. Ça, je crois que seule une famille peut éduquer. Je ne crois pas beaucoup à l'éducation de l'État. Mais l'État doit veiller à l'instruction. Et l'État doit permettre que des hautes écoles, au point de vue scientifique et technique, puissent se fonder et exister. Ça, c'est l'État. Alors vous allez dire, pourquoi cette chose-là? Comment faites-vous cette distinction que je crois être fondamentale pour les problèmes de la famille et de l'État? Ça, je vous demande d'y réfléchir, parce que ce sont des questions qu'on vous posera. Si vous ne les voyez pas maintenant, vous ne les verrez jamais. Donc il faut les voir. On les oublie et on les reprend. Mais si on les a vus une fois, même si on les a oubliés, ça revient. C'est ça qui est très cool. C'est le propre de l'intelligence. Quand l'intelligence a saisi quelque chose, ça demeure pour toute la vie. Alors, c'est important. La famille, c'est la survie de l'espèce. La famille doit conduire à éduquer des personnes humaines. Or, la personne humaine n'est personne humaine que lorsque l'individu découvre sa finalité. Tant que vous n'avez pas découvert votre finalité, vous êtes un être errant. Vous êtes un individu peut-être extraordinairement fin, extrêmement cultivé, mais vous n'êtes pas une personne. On en crève de gens cultivés. C'est vrai, il y a des gens cultivés, mais ils sont super cultivés. Ils ne sont pas des personnes. Ça s'enfonce comme dans du beurre. En dehors du frigidaire. Vous voyez, il n'y a pas de personne. Il n'y a qu'une culture. La culture, c'est du côté du conditionnement humain. Tandis que la finalité, c'est notre lien avec le bien, avec une autre personne humaine. Or, c'est ça le propre de l'éducation. Et le noviciat est une école d'éducation. On éduque à découvrir qu'on est enfant de Dieu et la personne divine qui est en nous. C'est ça, l'éducation. C'est quelque chose de fondamental. C'est faire que notre volonté devient capable d'aimer et de s'orienter vers sa fin. C'est donc la volonté qui devient à ce moment-là elle-même le cœur dans ce qu'il y a de plus profond. Tandis que l'instruction, c'est l'intelligence qui cherche la vérité. La vérité, d'une certaine manière, est plus noble que l'amour. C'est vrai. Mais la vérité, pour nous, étant donné notre conditionnement, cette vérité s'acquiert progressivement. Cette vérité réclame tout un milieu dans lequel on puisse développer cette intelligence. La vérité n'est pas au sens absolu la fin. Elle est un bien de l'intelligence, mais elle n'est pas le bien du sujet. Et parce qu'elle n'est pas le bien du sujet, la vérité pourra impliquer divers aspects de la vérité. Tandis qu'il n'y a pas divers aspects de la finalité. La finalité est la finalité du sujet, de l'individu qui devient une personne. Tandis que la vérité, il y a des modes différents de vérité. Il y a des vérités scientifiques, des vérités mathématiques, des vérités. Il y a des vérités qui nous... directement l'homme qu'on les connaisse ou qu'on ne les connaisse pas, ça ne modifie rien à la structure de l'homme et de la personne. Ça fait partie de la culture ou ça fait partie de recherches scientifiques très importantes pour les techniques, pour les applications, très importantes pour l'efficacité, très importantes pour ce que représente ce capital de vérité dans lequel l'homme baigne. Mais il y a des niveaux de vérité. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Il y a des niveaux de vérité. Toutes les vérités qui sont au niveau du conditionnement humain et qui permettent un développement technique plus grand, immédiatement ou médiatement, l'État qui s'occupe du bien commun a le devoir de s'en occuper. Est-ce que l'État doit s'occuper de la vérité philosophique? Est-ce que l'État doit s'occuper qu'il y ait des écoles de sagesse? C'est une question qu'on doit se poser. Ou est-ce que ça, c'est la famille? Si c'est la famille, on est bien mal situé. Hein. Parce que la famille ne s'occupe pas tellement d'une école de sagesse. Je crois pas. Alors si l'État ne s'en occupe pas, il y aura que des individus. Et très vite, ça périclitera. Alors, c'est une question très délicate. Des vérités scientifiques, je comprends très bien que l'État, immédiatement, s'en occupe. À cause des applications et à cause de l'efficacité. À cause de la transformation du conditionnement humain. Mais quand il s'agit de vérités philosophiques, non immédiatement applicables, on travaille dans la dentelle. C'est non immédiatement applicable. Que vous entriez dans la philosophie première, dans la métaphysique, ça ne transforme pas du jour au lendemain votre personne. Que vous fassiez la distinction entre critique et métaphysique et logique, ça ne change pas directement votre personne. Un état pratique, et l'état doit être toujours pratique, ne va pas s'en occuper. Vous n'avez jamais vu dans les votations publiques mettre comme programme j'établirai une école de sagesse. Ça ne passerait pas la rampe. Et donc c'est tout à fait. Alors, est-ce que l'État ne doit pas s'en occuper? Ça, c'est très important. Puisque, au fond, la sagesse, est-ce que c'est de l'ordre de l'éducation ou de l'ordre de l'instruction? La sagesse. Hein, je vous poserai cette colle à l'examen. On l'a pas traité dans le cours. Vous attendez tous les éléments qui vous permettent de donner la conclusion. Si vous êtes intelligent, est-ce que la sagesse relève donc de l'éducation ou de l'instruction? Ça vient des deux. Oui, c'est pas si bête. Des deux. C'est vrai, des deux. Une personne humaine n'est une personne humaine que si elle aboutit à la contemplation. Je le regrette. Et c'est pas avoir une pensée aristocratique de dire ça, c'est tout simplement être dans la vérité. Une personne n'est une personne humaine que si elle aboutit à la contemplation. Donc, toute l'éducation est tendue vers la contemplation. Si elle est vraie, catholique, c'est de rappeler le primat de la sagesse. Et de rappeler que toute connaissance humaine est ordonnée à la sagesse. Et donc toute éducation est ordonnée à la sagesse. Alors, c'est le terme de l'éducation. C'est le terme de l'instruction. C'est les deux. Or, nous avons dit, l'éducation relève de la famille, l'instruction relève de l'État. Ce qui est au-delà de l'éducation, ce qui est au-delà de l'instruction, plus personne ne s'en occupe. On comprend très bien. La famille dit, c'est trop pour nous. C'est vrai. Dans n'importe quelle famille, est-ce que vous avez entendu parler beaucoup de la contemplation ? Bonne famille chrétienne ne parle pas beaucoup de contemplation. Elle parle qu'il faut être obéissant. Elle parle qu'il faut être studieux. Elle parle qu'il faut être tempérant. Elle parle qu'il faut... Et ainsi de suite. Des mœurs de politesse et de bien, de savoir bien se tenir à table. Est-ce qu'on parle de la sagesse ? Non. Dans les meilleures familles chrétiennes, on ne parle pas de la sagesse. Il faut quelqu'un extrinsèque à la famille. À rappeler ce que c'est que la sagesse. C'est pas la famille. Alors, cet extrinsèque de la famille, est-ce que c'est un ministre ? Le ministre de la sagesse. Est-ce que... Non, l'État ne s'en occupe pas non plus. Alors, c'est quand même tragique ça. Il n'y a que des individus. Quelque chose d'analogue pour l'art. L'art n'est pas immédiatement du côté de l'éducation. La famille n'est pas le lieu idéal où on développe des vocations artistiques. Tout le monde le sait. La famille étouffe plutôt les vocations artistiques. La famille peut être un milieu qui permet une certaine culture. L'art lui-même, non. L'art est trop autonome, personnel, pour se développer dans la famille. L'État peut favoriser, mais c'est pas l'État, c'est les individus. C'est curieux, hein. Et c'est très intéressant de voir ça. Il y a certains aspects ultimes qui relèvent de la personne. Ça montre bien que la famille n'explique pas tout, que l'État n'explique pas tout, qu'il y a quelque chose de plus fondamental.